Vous êtes bien à l'écoute de Radio France Internationale, il est tout juste 16h à Paris.
Olivier Sherman.
La Cour suprême américaine suspend l'interdiction des expulsions de migrants. Donald Trump, qui pourra donc reprendre ses expulsions à condition de respecter des procédures légales. Les explications à suivre d'Arim Lipold. L'armée israélienne a bombardé hier une tente où étaient regroupés des journalistes à Khan Younes. Au moins l'un d'entre eux a été tué, brûlé vif. Reportage de notre envoyé spécial permanent à Jérusalem, Sami Bourhalifa. Kuala Lumpur lance une offensive régionale après les droits de douane de Donald Trump. L'Asie du Sud-Est, frappé de plein fouet, cherche la réponse. Washington a imposé des taux allant de 10 à 50%. La Malaisie appelle donc les pays de la région à une action collective. Enfin, Elisabeth Le Quéret nous présentera un film qui nous emmène en Somalie, Le village aux portes du paradis, qui sort demain dans les salles françaises. C'est donc une victoire pour Donald Trump. La Cour suprême américaine a suspendu l'interdiction des expulsions de migrants. Le président américain s'est appuyé sur une vieille loi datant du XVIIIe siècle pour envoyer plus de 200 migrants vénézuéliens vers le Salvador. Il pourra donc reprendre ses expulsions à condition de respecter des procédures légales. Mais la bataille judiciaire pourrait se poursuivre à Arim Lipold.
C'est un grand jour pour la justice, s'est réjoui Donald Trump après la décision de la Cour suprême des États-Unis. Mais cette joie pourrait bien être de courte durée, car la plus haute juridiction américaine n'a pas tranché sur le fond. Elle a simplement levé les restrictions imposées par un juge concernant les expulsions pour vice de forme. Les migrants à l'origine de cette action en justice auraient dû porter leur recours devant un tribunal du Texas, l'État où ils résidaient et non à Washington. La Cour suprême a donc laissé une porte ouverte pour contester la légalité de l'utilisation de la vieille loi connue sous le nom d'Alien Enemies Act, la loi contre les ennemis étrangers. Cette affaire a fait beaucoup de bruit ces derniers jours, car l'administration Trump a reconnu avoir expulsé par erreur un migrant vers le Salvador. Un juge a ordonné de ramener cette personne aux États-Unis avant lundi minuit, mais grâce à un autre arrêt de la Cour suprême, le gouvernement américain a obtenu un répit.
Une annonce surprise encore de Donald Trump. Le président américain assure que des discussions avec l'Iran sur le nucléaire se dérouleront samedi prochain à Oman. Téhéran confirme, mais l'Iran a toujours posé une limite, accepté de parler du nucléaire, mais jamais de son programme d'armement. Le président américain a également créé la surprise en affirmant que les États-Unis et l'Iran menaient des discussions directes, alors que les deux pays n'ont plus de relations diplomatiques depuis 45 ans. La Russie, de son côté, s'est dit favorable à ces discussions directes entre Téhéran et Washington sur le programme nucléaire iranien. En visite en Égypte, Emmanuel Macron est arrivé près de la bande de Gaza au port d'Al-Arish, une base arrière du soutien humanitaire à l'enclave palestinienne. Accompagné de son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi, il appelle à une reprise de l'aide bloquée par Israël depuis plus d'un mois et à un retour immédiat au cessez-le-feu avec le Hamas. Encore des images insoutenables en provenance de Gaza. L'armée israélienne a bombardé hier une tente où étaient regroupés des journalistes à Khan Younes. Au moins l'un d'entre eux a été tué et une dizaine d'autres blessés. Certains sont dans un état critique, comme le journaliste Ahmed Mansour qui apparaît dans une vidéo en train d'être brûlé vif dans l'incendie provoqué par la frappe aérienne. Il est en soins intensifs. Israël interdit toujours l'accès à la bande de Gaza à la presse étrangère. À Jérusalem, Sami Bourhalifa.
Une scène épouvantable, partagée dans une vidéo sur les réseaux sociaux. Les cris, les prières, la douleur et l'impuissance. Un homme dévoré par les flammes. Certains tentent de lui porter secours mais battent en retraite face au puissant brasier. La silhouette au milieu du feu est inerte et puis une jambe se lève, les deux bras remontent. Des gestes presque mécaniques, probablement les réflexes d'un corps à l'agonie. Selma Kadoumi est journaliste gazaoui et connaît la victime.
Dans la bande de Gaza, on n'a plus rien. On vit sous des tentes faites de bâches en plastique. Elles sont très inflammables. La suite, vous l'avez vu en vidéo. Notre collègue journaliste était assis en train de travailler sur son ordinateur portable lorsqu'il y a eu la frappe. Son corps a été criblé d'éclats. Blessé, il n'avait plus la capacité de bouger pour sauver sa vie et il a été dévoré par les flammes.
L'armée israélienne assume la frappe. frappe et affirme avoir visé un membre du Hamas qui se faisait passer pour un journaliste. Toujours le même mensonge, dénonce la photoreporter Salma Kadoumi.
À chaque fois, les forces d'occupation israéliennes nous accusent d'appartenir à tel ou tel groupe armé. Mais la vérité, c'est que les Israéliens tentent de nous empêcher de documenter leurs crimes. Ils nous empêchent de travailler et interdisent à la presse étrangère d'accéder à Gaza. Chaque semaine, des journalistes sont tués. Jusqu'à quand ?
Salma Kadoumi a été elle-même blessée par balle l'été dernier lors d'un reportage. Depuis le début de la guerre à Gaza, plus de 200 journalistes palestiniens ont été tués par l'État hébreu, selon le syndicat des journalistes palestiniens. Sami Brifa, Jérusalem, RFI.
Une annonce qui commence à faire du bruit. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que son armée a capturé pour la première fois deux soldats chinois combattant selon lui pour l'armée russe dans l'est de l'Ukraine. Arrestation dans la région de Donetsk, dans l'est du pays. L'Ukraine a convoqué le chargé d'affaires chinois à Kiev pour obtenir des explications à ce sujet. La capture de soldats chinois présumés remet en question la position pro-paix de Pékin selon l'Ukraine. En Turquie, la tension ne retombe pas entre le pouvoir et l'opposition. Le président Recep Tayyip Erdogan porte plainte pour insulte contre le chef du principal parti de l'opposition, Özgür Özel. Ce dernier l'a accusé d'être à la tête d'une junte. Özgür Özel dirige le parti républicain du peuple, dont est membre le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, arrêté et emprisonné depuis 3 semaines. L'Asie du Sud-Est, frappée de plein fouet par les droits de douane de Donald Trump, cherche la réponse. Washington a imposé des taux allant de 10 à 40% et pénalise significativement des pays dont l'économie dépend fortement de leur exportation, notamment aux États-Unis. Et face à la tentation des négociations État par État, la Malaisie appelle les pays de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est à une réponse collective. Nicolas Roca.
Un gigantesque marché de 640 millions d'habitants, l'un des atouts de l'ASEAN dans les futures négociations selon Anwar Ibrahim, premier ministre malaisien. Alors que les ministres de l'économie de l'organisation se réunissent jeudi, Kuala Lumpur lance la réplique régionale. Les déclarations des différentes capitales vont dans le même sens. Une réponse collective, oui, mais sans escalade, à savoir sans droit de douane réciproque pour les États-Unis. Mais alors, à quoi pourra ressembler cette réplique coordonnée entre Singapour, qui a hérité du taux de base de 10%, et le Cambodge avec ses 49%, les intérêts semblent opposés. Chacun commence déjà à plaider sa cause. Le Vietnam a offert de supprimer toutes les taxes douanières pour les importations venues des États-Unis contre un répit de 45 jours pour ses propres droits de douane. Sans succès pour l'instant, l'Indonésie tente elle aussi la voie de la négociation en assurant se préparer à augmenter ses importations de produits américains. Mais cette stratégie a ses limites. Pour ces pays au pouvoir d'achat limité, augmenter significativement ses importations américaines afin d'atteindre un équilibre de la balance commerciale suffisant aux yeux de Donald Trump semble une mission quasi impossible.
La Chine, de son côté, a promis de combattre les droits de douane américains jusqu'au bout. L'Union européenne prépare sa propre réponse qui devrait être présentée en début de semaine prochaine. Les bourses mondiales en chute ces derniers jours regagnent aussi des couleurs et Wall Street vient d'ouvrir en forte hausse à plus 3,51%. Cinéma aujourd'hui avec un film qui nous emmène en Somalie. En mai dernier, Le village aux portes du paradis de Mo Arewave a marqué l'entrée pour la première fois en sélection officielle du festival de Cannes de ce pays. Le village aux portes du paradis sort demain dans les salles françaises. Elisabeth Le Quéré.
Quel avenir pour un enfant dans un pays en guerre, dans un village perdu en plein désert? Un père célibataire cumule les petits boulots pour offrir à son fils une vie meilleure. Alors qu'elle vient de divorcer, sa sœur revient vivre avec eux. Mo Arewave filme ses vies difficiles dans un pays dévasté.
C'est difficile à décrire. En Somalie, l'État n'existe pas. Et avec la guerre, c'est encore pire. Pourtant, les gens mènent leur vie, qu'ils cherchent un logement, de la nourriture ou l'amour. Ces gens ne sont pas des statistiques ou des numéros. C'était important de les faire exister et de montrer comment ils parviennent à survivre dans un milieu si difficile.
Affronter, c'est le sujet du film. Continuer à espérer, lutter pour arracher quelques miettes d'espoir. Par son rythme, ses ellipses, ses dialogues parcimonieux, le film nous fait ressentir la lenteur de ces vies en suspens. Mo Arewave fait naître l'émotion à partir de rien. Un silence ou un clin d'œil, comme un sculpteur ferait surgir de l'émotion à partir d'un bloc de pierre.
Cinéma toujours, Tom Cruise montera les marches du Festival de Cannes le 14 mai pour présenter le dernier Mission Impossible hors compétition. 16h10 à Paris.